pour l'instant, ce que nous avons vu avec vous les fois précédentes, c'est que nous avons regardé le jugement d'existence. Et ceci est, je ne vais pas vous répéter cette fois-ci, ne vous inquiétez pas. Ceci est, j'existe. Qu'est-ce que c'est que ce est? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce est? J'ai séparé ceci de est. J'ai fait comme Heidegger, parce que j'ai dit, oh là là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'interroge? Dès que je vois l'existence dans une statue, la statue existe, son chandail ici existe, bon, moi j'existe, la fleur existe. Pas de peau, elle est, ah si, si, elle est fraîche. Je vois, mais c'est réel ça. De dire ça c'est réel et de dire ça ça existe, ce n'est pas pareil. Bon, ça va. On en a déjà parlé. J'espère que vous voyez bien. C'est pas parce que je vois que ça c'est. Ah, mais c'est réel. Donc, ah, je touche l'être. Ah, attention. Ne dites pas trop vite, justement. Mais vous faites beaucoup de jugements d'existence. C'est ce que je vous ai dit. Il faut que vous fassiez beaucoup de jugements d'existence. Et que vous voyez la différence radicale qu'il y a donc entre l'être. Et puis, au fond, tout ce qui est adjacent à l'être. La nature, la vie, l'idée, la lumière. La matière. L'amour, l'unité, l'amour, toutes les formes d'unité. C'est différent, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Tant que t'as pas 7, dis-toi bien que tu es paumé. Alors, parce que tu recommences, ça risque. Et puis tu recommences encore une troisième fois, ça risque de faire 6, 6, 6. Bon alors donc, à ce sujet-là, j'ai lu dans le Figaro du 17 janvier. J'ai lu dans le Figaro du 17 janvier que la voiture qui amenait l'auguste président François Mitterrand à Jarnac avec son cercueil était immatriculée 666, pour éviter de scandaliser les esprits fragiles. Voilà. Et ben c'est quand même extraordinaire, le même nombre donc de losanges que le losange qu'il avait fait faire. Il est quand même, enfin je sais pas, c'est bon. Oui. Ah bon, ben, arrivé à Jarnac, c'était. Arrivé à Jarnac, il y a quelqu'un qui a fait. Il y a quelqu'un qui avait passé, qui a fait un nouveau numéro. Alors, c'est. Mais un Figaro, mais je vois très bien, vous prenez. Oui, oui, c'est celle qu'il a amenée de l'église au cimetière. Si. Bon, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Alors, c'est pas du tout. Alors, simplement, donc vous voyez bien, j'ai fait la différence quand même entre l'être, la vie, l'être, la nature, l'être, l'unité. Vous voyez, quand je touche quelque chose, je touche au fond la nature, là. Je touche, ben c'est du bois, ça appartient à la nature. Vous voyez ? Hein ? J'aime bien, d'ailleurs, il y a quelqu'un, j'aime... Je touche un peu l'amour finalement parce que j'aime bien la nature, j'aime tous les hommes. Or c'est un homme qui a fait, c'est un artiste qui a fait ça. Je touche toutes les formes d'unité à travers ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'amour que je touche? Là le bois, c'était un arbre, il y avait de la vie. Moi aussi je vis. Est-ce que c'est la rencontre de ce qui unifie toutes les vies qui est là? Est-ce que c'est pas toutes les vies qui sont là? Non, c'est pas tout ça, voyez. Est-ce que, vous voyez, quand dans un jugement d'existence, c'est le est que je touche. Ça, c'est très important que nous puissions voir cette différence, mais clairement, hein, entre le est, ceci existe, et puis la vie, la nature, la forme, l'idée. On pourrait rajouter, parce que ça déborde toujours, Dieu. Après tout, oui, voilà. Ah oui, il y a mon âme, oh là là, il y a mon âme, et puis je me touche, ah je vois que j'existe. J'existe. Ah ben voilà, le S, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Le S, c'est toi, c'est toi. C'est pas Dieu, c'est toi. C'est le S, c'est ton être. Et ton être, c'est réel. Et Dieu aussi, c'est réel, mais c'est un autre. Bon. C'est pas Dieu, sinon il faudrait qu'il m'adore. Alors, à genoux, tout le monde. Hop. Alors, donc, une fois qu'on a fait le jugement d'existence, vous comprenez que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce être? Donc, j'ai formalisé, et j'ai le droit de le formaliser, puisque quand je dis est, ceci existe. Et quand je dis être, qu'est-ce que c'est que l'être que je saisis dans ceci existe? Je vois bien que c'est le même verbe, c'est la même signification. C'est la même signification. Il y en a une qui est à la forme active, l'autre à la forme infinitive. Ça, c'est pas grave. Mais c'est la même signification. Donc, simplement, ce que Heidegger ne fait pas. Vous voyez, Heidegger, lui, il fait quoi? Finalement, il va dans cette direction-là, lui. Il va dans cette direction, c'est ce que nous avons vu. Il dit, il faut que je me sépare de tous les ceci, de tous les étangs. Et que je regarde l'être pour lui-même, uniquement être, séparé de tous les étangs, séparé de tous les êtres limités. Mais qu'est-ce que c'est que l'être? Absolument séparé de tous les êtres limités, si ce n'est pas l'être premier. Et finalement, il veut faire le dévoilement, la létéia de l'être, la vérité sur l'être, pour lui, en fait, c'est de toucher l'être totalement séparé. Donc, c'est finalement... C'est la recherche de Dieu que fait Heidegger, il ne fait pas de la métaphysique. C'est la recherche de Dieu à partir de mon être, quand même, puisqu'il est d'accord que c'est à partir des étangs qu'il faut que je me sépare des étangs. Bon, et vous comprenez que du coup, finalement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'à mon avis, Heidegger, bon, ben qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire nous, hein, nous, on est heideggerien jusqu'à la racine, dans nos mentalités, n'est-ce pas? Et ben, nous, finalement, je voudrais, ce qu'on voudrait, c'est retrouver toucher Dieu dans notre existence, à partir du moment où notre existence est capable de toucher son origine éternelle et sa fin éternelle. Bref, c'est la métaphysique de la première cellule. Est-ce que la métaphysique de la première cellule est une vraie métaphysique? Non. Pourquoi? Parce que l'endroit où je suis en contact dans mon existence avec l'origine et le toucher d'éternité d'origine et mon toucher d'éternité final, c'est un endroit vital. C'est pas un endroit... Vous voyez, parce que c'est à un moment, c'est à un instant. C'est un instant, l'origine, dans mon temps. Il y a un instant, il y a quelque chose qui quelque part, qui ne subsiste pas de la même manière. La preuve, c'est que la manière dont j'ai été originé ne subsiste pas actuellement dans ma conscience, dans ma vie. Donc je vois bien qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas la même manière d'exister, de cette touchée originelle d'éternité. Donc, la métaphysique de la mémoire ontologique, la métaphysique de la mémoire d'origine, pardon, n'est pas une métaphysique. C'est une métapsychique, quelque part. Vous voyez? C'est une espèce de... Ce n'est pas contemplatif, ce n'est pas l'intelligence qui sert son bien. C'est l'intelligence qui se tourne vers une anamnèse, vers sa mémoire d'origine. Donc ce n'est pas vraiment l'intelligence. Ici, ce que nous faisons, c'est le jugement d'existence, une opération de l'intelligence à partir de l'expérience. Et alors, pour pouvoir trouver l'être dans toute sa pureté, il dégage surtout de tous les jugements d'existence particuliers. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si c'est ça, effectivement, je perds le contact de l'être réel. Et mon intelligence, du coup, ne peut plus juger, elle ne peut plus analyser. Et vous voyez, c'est parce que l'intelligence est toujours très réaliste. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'accueillir l'autre en tant qu'autre. Et pas une idée ou une mémoire de l'autre. Ça, c'est pour ça que c'est si important dans le monde d'aujourd'hui de saisir ça de manière élémentaire, parce que pour aimer son gosse, pour aimer son prochain, ou pour aimer l'Eucharistie, si on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes, notre intelligence contemplative ne va pas marcher et on ne sera pas capable d'accueillir l'autre en tant qu'autre. Donc c'est vital, ça, c'est capital. Bon, nous avons déjà vu ça. Donc comment est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Je vous ai dit plusieurs fois, faisons la différence entre l'âme, la vie, et l'être. Est-ce que c'est vrai, vous en rappelez de ça? Il y a une différence très grande entre la vie et l'être. Et je vous ai dit quelquefois, qu'est-ce qui est la cause de la vie? Quel est le principe? Je vis, et au centre de ma vie, il y a quelque chose qui est source de ma vie, qui est cause de ma vie, qui est principe de ma vie, c'est l'âme. Et je vous ai dit plusieurs fois, il n'en est pas de même pour l'être. J'existe. Et la cause, attention à ce que je vais dire, et la cause de mon être, je vous ai dit plusieurs fois, la cause de mon être, l'origine de mon être, le principe de mon être, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à l'intérieur de moi, c'est un autre, c'est le Créateur, c'est Dieu. Et maintenant, cause artistique, efficiente, artistique, transcendante. C'est le Créateur qui est la cause de mon être. Oh, comme c'est curieux. Vous voyez que quand je dis ça, ici, au fond, je vous ai dit ça jusqu'à maintenant, toutes les dernières années, mais finalement, quand je dis ça, je vous aide quelque part à distinguer le point de vue de l'âme et le point de vue religieux. Mais je ne vous aide pas à distinguer le point de vue de l'âme et le point de vue de l'être. Il faut aller beaucoup plus loin pour distinguer le point de vue de la vie et le point de vue de l'être en toute vérité, sans faire intervenir la cause créatrice, c'est-à-dire Dieu. Parce que finalement, vous voyez, je suis bien obligé de faire ça avec vous et de le faire moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes très, très conditionnés par une pensée heideggerienne, une pensée phénoménologique. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça aide quand même. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord que ça aide. Ça aide à nous éveiller. On dit, mais c'est drôlement important, j'existe. Ah oui, là, je suis suspendu à la Créateur de Dieu. Ça aide. C'est pas quand même pas pareil. Ma vie, ah, c'est moi qui suis la cause de ma vie, dans mon âme. Mon âme est cause de ma vie. Mon âme n'est pas créée par Dieu, en ce moment. Ma vie n'est pas créée par Dieu, je veux dire. Plus exactement. Ma vie n'est pas créée par Dieu, c'est mon âme qui est cause, qui est principe, qui est source de ma vie. Tandis que source de mon être, c'est Dieu. Ah, oui, d'accord, ça c'est vrai. Mais je suis désolé, mais ça c'est une conclusion de théologie. On n'est pas dans un jugement d'existence, on est sorti du jugement d'existence, là, en faisant ça. Et donc, je me pose la question, mais alors, si je sais déjà, grâce à la sagesse et à mon expérience religieuse, grâce à mon expérience contemplative innée, réaliste, je sais que l'être et la vie, ça n'est pas du tout la même chose. Je sais que l'âme est cause de ma vie, alors quelle est la cause, la vraie cause de l'être? Pour trouver en moi la cause de la vie, c'est-à-dire l'âme, j'ai été obligé de faire une induction. Et il a fallu que pour que je fasse l'induction, que je revienne à la réalité de ma vie, et que je vois qu'il y ait une multiplicité de bouillonnements vitaux en moi, dans tous les sens, végétatifs, les multiplications cellulaires, le sang qui circule, les neurones, la vie spirituelle, les idées, les pensées, les passions, c'est extraordinaire. Quelquefois des vitalités contradictoires et en même temps une seule vie. C'est extraordinaire. Cette unité dans la multiplicité, il y a une source nécessairement de cette multiplicité, de cette contradiction, et en même temps une source de cette unité. C'est impossible, sinon. Tu verras jamais une multiplicité et une unité. Une multiplicité absolue et une unité absolue, s'il n'y a pas une cause des deux. C'est impossible. C'est l'induction élémentaire. Tu vois bien que c'est la même source. Source d'unité, en même temps source de la multiplicité. Source des contradictions vitales et source d'unité. Je constate les deux. Bon, par exemple, je te vois. te vois. Ah, je vois ta mère. Ah, je vois ta copine. Ah, je vois ta fille. Ah, je vois ta sœur. Ah, je dis, c'est quand même, c'est pas toutes les mêmes, toutes les mêmes cheveux longs, toutes elles sont, c'est toutes des femmes. Enfin, et je dis, il y a une multiplicité et en même temps, il y a une unité. Alors, je fais une induction élémentaire. Je dis, tiens, voilà des femmes. C'est une induction, je n'ai pas besoin de faire une induction là. C'est mon intelligence qui prend la multiplicité des expériences que je constate, qui les reçoit, et une lumière à l'intérieur de moi-même, qu'on appelle l'intellect agent, une lumière qui vient prendre ce qu'il y a de commun et abstraire ce qu'il y a de commun et d'essentiel à toutes les cinq là. L'abstraction, c'est une induction élémentaire. On fait tout le temps des inductions. Mais parce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est que l'induction finalement? C'est une abstraction qui est volontaire, n'est-ce pas? Et c'est une opération de l'intelligence native, mais qui devient volontaire, c'est-à-dire qui devient pleinement humaine. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire l'induction. Ici, nous allons faire l'induction. Mais pour pouvoir faire l'induction, il faut revenir au réel, pour voir la multiplicité dans l'unité, et l'unité dans la multiplicité. Ah, alors là, je demande votre attention. Tout ça, ce sont des choses donc très évidentes, mais ça, peut-être que comme je les explique mal, elles ne sont pas évidentes pour vous. Donc on va les reprendre en essayant de faire en sorte que ce soit assez le plus évident possible. Il faut absolument que nous fassions cette induction. Cette induction, c'est l'induction qui va, c'est cette induction sur qu'est-ce que c'est que l'être pour découvrir la cause intérieure de l'être. Vous voyez, quand je disais... La source de mon être, c'est je suis suspendu à la créateur de Dieu. Vous voyez, c'est une cause extrinsèque. C'est une cause transcendante. C'est pas une cause immanente. Vous voyez bien, immanente, intérieure. Vous voyez, l'âme, source de vie, de l'intérieur même de ma vie, source de vie. Mais l'être, il faudrait que je puisse rentrer à l'intérieur de l'être comme je rentre dans un tunnel, vous savez. Et je rentre dans l'être et hop, je vois qu'il y a quelque chose. Je vois que cet être, il fait que... Vous voyez, il faut que je puisse... Ça, c'est l'induction qui va me permettre de pouvoir rentrer dans ce être bien concret pour voir ce qui, de l'intérieur, est source de cet être, de ce être. Ça, c'est l'induction qui me le permet. Et il y a deux catégories de gens. Première catégorie dit, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas, tu dis, il y a l'être, tu existes, et puis c'est tout. Réfléchis pas plus. Hein? Ça, ce sont des spéculations inutiles. La substantialité de la substance, hein? La substantialité de la substance, alors là, si un jour vous voulez briller dans un salon, allez-y. La substantialité de la substance, comme dit, n'est-ce pas, ainsi que l'explique Hegel, voilà. Ça, c'est l'enterrement de première classe de la substance, vous voyez. Si je dis la substance, c'est-à-dire la source, ce qui explique l'être en tant qu'être, c'est la substantialité. Donc c'est une abstraction, ça. C'est une idée. Substantialité, ce par quoi la substance est substance, de la substance. Ça veut dire, c'est la vaporisation, de la vaporisation, de la vapeur. C'est l'enterrement de première classe. Ça n'existe pas. Ça, c'est Hegel. Pourquoi? Parce que tout est une évolution pour Hegel de l'esprit, une vitalité. Et la substantialité de la substance, précisément, apparaît dans l'évolution vitale de l'esprit. Et cette catégorie ici, cette catégorie de gens qui pensent comme ça, moi je vous mets c'est Hegel, vous allez me dire, moi Hegel, qu'est-ce que j'en ai à brosser? Oui. D'accord, tu peux toujours dire, t'en as rien à brosser. Mais en attendant, si tu n'es pas contemplatif, sache bien, que c'est parce que tu es Hegelien. Et si tu te trouves complètement surpris, en me disant, mais tiens, mon gosse là, mais je l'aimais, il m'aimait, on s'entendait très bien, il s'est barré d'un seul coup. Je comprends rien. Je croyais pourtant que. Non? Tu n'as jamais contemplé ton enfant. Terrible, ça. Pourquoi? Parce que tu es Hegelien. Alors, il faut quand même sortir de Hegel. Hein. Je connais un philosophe qui s'appelle MDP, qui dit « Hegel, c'est un bois. C'est un bois énorme. Bouffe tout. C'est la caricature de la vie contemplative. Il bouffe tout en détruisant tout. C'est fou. C'est pas... Alors nous, il faut qu'on soit pas des bois, n'est-ce pas? Qu'on soit des aigles merveilleux, des aigles. Et il faut qu'on puisse trouver la cause de l'être par l'induction. On va essayer de faire cette induction, si vous voulez bien. Faites attention, c'est pas commode. Je sais bien que quelques-uns, que j'aime beaucoup par ailleurs, font l'induction de la substance en partant, alors là je m'excuse pour ceux qui n'y connaissent rien, en partant des catégories d'Aristote. Ça n'est pas une induction de la substance, de faire comme ça. Je vous brosse rapidement la manière. Il y en a un notamment qui fait comme ça, il s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Pour faire l'induction de la substance, il part des catégories d'Aristote, et puis il part du langage, et puis il dit, mais dans le langage au fond, on dit, ben voilà, il y a... Ah ça, remarquez, c'est intéressant. Ça c'est la manière informatique de procéder. L'informatique peut être un signe, remarquez bien. Mais ce n'est qu'un signe, ce n'est pas une induction. Quand je vois Maurice, j'en profite puisque je ne le vois pas. Maurice, voilà. Quand je vois Maurice, je dis Maurice, voilà. Maurice, bah, c'est un homme. Ça c'est sûr, il a l'humanité. Bon. Il est d'une qualité extraordinaire. Il a des qualités intérieures extraordinaires. Extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Bon, des qualités fantastiques. Vraiment. Hein? Il a des très grandes qualités. Bon. N'est-ce pas? C'est vrai. Et il a aussi il a de la grandeur, ça, il n'y a pas de doute. Ah oui. Oui, oui. Hein? Il a de la grandeur. Hein? Formidable. Il a de la grandeur. Ah, une harmonie des formes extraordinaire. Vraiment. Bon. Il est quand même impensable sans sa moitié sponsale. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'il soit démuni par ailleurs, puisqu'il a vraiment, comment dire, il a vraiment. Il a vraiment un rayonnement extraordinaire, un vêtement de gloire, n'est-ce pas? Il a un avoir merveilleux, n'est-ce pas? Et du coup, à l'ombre de ce chêne, tout l'environnement se transforme. Bon, je ne vais pas vous faire les 10 catégories d'Aristote. Hein. Les catégories d'Aristote, c'est de constater qu'à chaque fois que je constate quelque chose de réel, chaque fois que je constate une réalité, je peux distinguer dans cette réalité 10 choses essentielles. 10 choses qui vont, que mon intelligence va déterminer distinctement. Premièrement, la substance première, le sujet. Deuxièmement, la substance seconde, l'essence. Ce qu'on appelle l'essence, la substance seconde. C'est pas pareil d'être un homme ou d'être un animal, d'être une plante. Je dis pas Maurice, c'est une belle plante. C'est une plante. Mais c'est pas sa substance, c'est pas ce qui est essentiel dans sa substance seconde. Vous voyez bien? Bon, il a des qualités. il a une certaine quantité, n'est-ce pas? 53 ans, par exemple. Bon, je ne sais pas quel âge, et c'est pas ça qu'il a, je sais pas. Ah. Bon, c'est-à-dire, il vit entièrement de la grâce, entièrement de l'amour. Alors, il est en relation. Il y a des relations, lui. Il est marié, si vous voulez. Il a, donc, nous avons dit, un vêtement, un avoir, il est enveloppé, etc., etc. Et là, bon, je peux vous mettre les autres si vous voulez. Hein, l'action, il a un rayonnement sur son entourage extraordinaire, c'est la colonne de toute la paroisse, et la paroisse est illuminée par toute sa présence. Action, il agit, c'est extraordinaire. Passion, il souffre. C'est un type extraordinaire qui pâtit, c'est-à-dire qui est très très réceptif. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore parmi les 10 catégories? Enfin, peu importe.
Le lieu, le temps.
Oui, le lieu, le temps, etc. Bon. Il a, oui, oui, tout à fait, le lieu, le temps. Bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce sont des choses qui sont formées petit à petit. Formellement, je les vois. Je suis capable de les voir, d'abstraire une qualité de quelqu'un. Je suis capable d'abstraire la quantité de quelqu'un. Je suis capable d'abstraire, de saisir qu'il a une moitié spontanée, qu'il est en relation essentielle avec lui. Et je suis capable de voir qu'il y a quelque chose d'essentiel dans son vêtement. Il est le sacrement de quelque chose, il rayonne de quelque chose. Et il a une action. L'environnement est transformé grâce à lui. Il est en même temps réceptif. Hein. Donc il est un petit cosmos dans le grand cosmos, quelque part. Vous voyez bien, il est... Bon, etc., etc. Il y a le lieu, il y a le temps. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont des formes. C'est formellement indéniable qu'il y a tout ça. C'est réel, ça. N'est-ce pas? Bon, tout à fait réel. D'accord? On est d'accord jusqu'à maintenant. On appelle ça des déterminations formelles. Tout ça, on appelle ça, c'est bien déterminé, c'est clair. C'est très clair qu'il a l'humilité, la sainteté, ça, clair. C'est pas une invention, c'est réel, je le constate. Et je suis capable d'abstraire ça et de faire un jugement là-dessus. Je peux faire un jugement sur toutes ces sur les 10 catégories, n'est-ce pas? Et bien, je constate que tout ça, ça se réalise dans l'humanité de Maurice. C'est l'humanité dans l'humanité de Maurice, je constate ça. Et qu'est-ce qui vient porter toutes ces formes diverses? C'est l'humanité de Maurice. C'est Maurice dans son humanité. Alors, ce qui se passe, c'est que je distingue dans l'humanité de Maurice sa détermination, quelle est la forme essentielle de Maurice. C'est un homme, substance seconde, et je regarde ce qui est complètement indéterminé, sans détermination, c'est-à-dire qu'il a, c'est un sujet. C'est lui, c'est un individu très particulier, spécial, unique en son genre. Mais si on garde que ça, si je supprime homme, si je supprime ses qualités, si je supprime la quantité, si je supprime ses relations, si je supprime son avoir, si je supprime son habitus, son action, sa passion, son lieu et son temps, le sujet tout seul, je ne vois plus rien. Je ne vois plus aucune détermination. Ça va? Et la détermination essentielle, c'est la substance seconde. Donc je vais distinguer ce qui reçoit toutes ces qualités, je constate que mon langage dit Maurice. C'est un saint. Ou alors, cet homme-là, l'homme est un saint. Ah, c'est pas pareil. Donc je constate qu'il y a à chaque fois que je constate des réalités que j'attribue différemment, n'est-ce pas, et que j'attribue toujours à un homme, mais que dans homme, il y a une détermination absolue et une indétermination absolue. Ça va? Substance première, substance seconde. Mais ça, c'est logique. C'est de la logique, c'est-à-dire ça. C'est le langage qui dit ça. C'est pas pareil quand je dis Pierre, quand je dis homme. L'homme est à 50 kilos. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose. Oui. Et le sujet reçoit aussi la substance seconde comme forme. Le sujet reçoit toutes les formes, y compris la substance seconde. Ça va? Et donc, quelque part, on va dire, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, il dit, mais voilà, ça y est, vous voyez bien qu'ici, c'est substance seconde, c'est substantiel d'être un homme. Et c'est substantiel d'être Maurice. C'est pourtant deux substances totalement différentes. Donc vous ne pouvez pas voir qu'il y a deux substances totalement différentes sans qu'il y ait une source à et l'une et l'autre. Vous ne pouvez pas avoir deux sans qu'il y ait une source et à l'un et à l'autre. Les deux choses sont essentielles, les deux choses sont substantielles. Il y en a une qui est déterminée et l'autre qui est déterminante. Une qui est déterminée et l'autre qui est déterminante. Une qui reçoit les déterminations et l'autre qui est sujet aux déterminations, qui va leur... Et une qui détermine... Bon. Bref, dans la substance, il y a quelque chose qui est source de toutes les déterminations, qui les reçoit, et une autre chose qui fait qu'elle est totalement déterminée. Ça, le langage me montre ça. Mais ça, c'est la logique. Il se pourrait très bien que ma logique elle fonctionne avec un programme ordinateur différent qui ne correspond absolument pas à la réalité. Je peux très bien faire des programmes sur Internet qui ne correspondent à aucune réalité. Donc ce n'est qu'un signe, ce n'est pas une induction. Si je faisais l'induction de la substance à partir de ça, je ferais une abstraction nouvelle, finalement. Et donc ce ne serait pas une induction. Donc il ne peut pas faire l'induction comme ça, vous êtes bien feinté. Bon. Donc il ne faut pas prendre la manière dont saint Thomas induit la substance. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec saint Thomas, je suis tout à fait d'accord avec saint Thomas, comme vous savez. Alors... Mais il faut faire attention, il ne faut pas dire, il y a beaucoup de gens. Suarez, à la suite d'Occam, va dire que ça, c'est l'induction de la substance de saint Thomas d'Aquin, dans les Disputationes Metaphysicae. Et après, les disputes métaphysiques de Suarez. C'est extraordinaire. Alors il va dire ça. Voilà l'induction de la substance, vous la faites là. Alors vous me direz, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ce qu'il nous dit le père Patrick avec ce truc-là. Ça ne me sert à rien. Je dis, attention, ça te sert à quelque chose. Je vais te dire pourquoi. Parce que après Suarez, c'est Descartes. Et il va dire, méditationnes metaphysicae. Ça chute à chaque fois. Tu vois. On passe de la métaphysique, induction, à disputationes, puis après méditationes, de plus en plus bas. Tu vois. Puis après, c'est substantialité de la substance. Et oui, mais vous me direz, mais c'est trop compliqué, ça ne me sert à rien de savoir ça. Si, je vous assure, ça sert à quelque chose. Pas de savoir que Hegel l'a prononcé comme ça. Il faut absolument que nous fassions nous-mêmes cette induction de la substance de manière à être définitivement autonome par rapport à toutes les propagandes, quelles qu'elles soient. C'est le seul moyen. Il faut qu'une fois pour toutes, on puisse découvrir, bien sûr, les autres qui sont autour de nous, ceci, tous les autres, ceci, mais aussi découvrir ce qui est source en chacun des autres que nous aimons, de ces autres-là. Parce que si je ne trouve pas en eux la source, comment est-ce que je vais pouvoir les aimer? Parce que si je regarde que les autres, je vais finir par faire une métaphysique des relations. Et c'est ça l'existentialisme de Sartre. On aboutit à quoi? L'enfer, c'est les autres. Pourquoi? Parce que les autres, je suis en relation avec eux, mais il ne faut pas trop tort, parce que sinon, j'y perds ma substance, j'y perds mon ceci, mais j'y perds pas ma substance. Dans l'amour, j'y perds mon ceci, mais j'y perds pas ma substance, au contraire. Je gagne la substance de l'autre, c'est encore mieux. Mais vous comprenez que si, spirituellement, je ne suis pas capable de toucher l'autre de l'intérieur même, de la source de ce qu'il est, comment est-ce que je vais pouvoir être attiré par lui et découvrir qu'il est plus grand que moi? C'est impossible. Or, l'amour ne peut fonctionner que si je touche réellement, c'est ça qui est important, réellement, le mot, là où l'autre est plus grand que moi. Il y a une source en lui, dans son existence, qui fait qu'il est plus grand que moi. Et ça, c'est un toucher réel. Si je ne l'ai pas touché, il est impossible pour moi de connaître l'extase de l'amour spirituel humain. De l'amour humain. Impossible. Donc j'aimerais sentimentalement... ce sera... la maréité de la mare. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? La marécageité de la marécage. Bon, alors... voilà. Eh bien, vous inquiétez pas, on va souffler un peu et il me restera donc une heure pour essayer de vous donner la possibilité de faire cet exercice d'induction. Je m'excuse, hein, vous voyez comme il faut contourner autour du pot, hein, avant d'arriver vraiment à notre problème. Mais déjà maintenant, je voudrais déjà quand même que vous disiez que, avant même qu'on commence tout à l'heure, que vous me permettiez de le faire comme ça en face de vous, c'est pas faire l'induction de la substance. Donc, voyez bien, je fais mon jugement d'existence. J'existe. Je me touche et je vois ce être. Je prends le être à part. Je dis, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Ça, c'est mon intelligence. C'est, je me suis déconnecté par rapport à moi. Pour pouvoir refaire l'induction, il va falloir que je reprenne cet être que je porte en ma tête, c'est ma tête qui a abstrait de mon jugement d'existence, être. J'ai fait une abstraction. Et il faut que dans la lumière que mon intelligence a mis dans l'être, dans ce mot être, il faut que je revienne avec ça, mais avec ma lumière, dans mon jugement d'existence. Il faut que je revienne dans le concret de mon jugement d'existence. Ça va? Mais cette fois-ci, c'est être, c'est illuminé par une abstraction que j'ai faite. Je l'ai mis à part, mais il faut que je le fasse revenir à la réalité pour que l'induction soit possible. C'est le retour au jugement d'existence qui permet l'induction. C'est précisément ce que Heidegger s'interdit. Et en se l'interdisant, il s'interdit de faire une induction. Et par conséquent, il s'interdit d'être conduit, ducere, in, ducere, d'être conduit à l'intérieur de l'être. Et du coup, il lui est interdit de rentrer à l'intérieur de la vérité. Et il est interdit de rentrer à l'intérieur de la vérité substantielle de l'autre. Et c'est ça le drame de l'existentielle angoisse d'Heidegger.